chacune. Et nous allons commencer. Je puis peut-être faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis pour nous qui étions là aussi, ça va un petit peu nous aider à replacer cette session dans son contexte. Le contexte, c'est pour vous les parents. C'est un outil de prévention. J'ai parlé de prévention primaire, c'est-à-dire avant même que les enfants soient en contact avec les produits. C'est très important de comprendre ça, parce qu'une fois qu'un enfant ou un jeune a pris de la drogue, c'est plus de la prévention. Prévention primaire, c'est on prépare l'enfant parce qu'on sait qu'un jour, il va être en contact avec les produits. Et si ce n'est pas tout de suite avec de l'alcool ou des drogues, eh bien ça peut être assez rapidement avec la cyberdépendance, c'est-à-dire les écrans, quels que soient les écrans. Et nous avons vu hier, dans cette première session, nous avons vu que c'est la relation. Ce cours, alors on a un problème de... Je crois que c'est ici. Hein. Nous avons vu que ce cours est un cours de prévention primaire. J'ai perdu le fil de mon idée là. Oui, c'est ça. Nous allons montrer, et j'ai montré hier, que la relation parent-enfant est ce qui est de plus important. Et ce cours, justement, parle et traite de cette relation. Pourquoi ? Parce que la relation sécurise, parce que la relation fait grandir, parce que la relation donne du plaisir, procure du plaisir. Et quand la relation est établie entre deux personnes, cette relation permet de parler de tous les sujets. Et en fin de compte, quand un jeune, et on va le voir demain davantage, quand un jeune s'est fait piéger par la drogue, eh bien, qu'est-ce qui va pouvoir l'en faire sortir ? C'est la relation qui ne s'est jamais arrêtée avec soit ses parents ou soit ses frères et sœurs ou des figures d'autorité. Et pourquoi on fait de la prévention primaire ? C'est parce que nous voulons être les premiers à parler à nos enfants de la drogue. Nous voulons être les premiers à leur parler, par exemple, aussi de sexualité. On ne veut pas que le monde et que Internet parlent de sexualité à nos enfants, oui ou non ? Non. Parce que si c'est le monde ou si c'est Internet qui parle de sexualité, ils vont chercher des informations. S'ils n'ont pas les informations, ils vont chercher des informations. Mais pas avec nos valeurs. Pas avec nos valeurs. Et la drogue, la même chose. Vous ne voulez pas que ce soit les copains qui expliquent à vos enfants ce que c'est que la drogue. Parce que, ou bien les dealers. Parce que forcément, ça ne sera pas avec vos propres valeurs. Et donc, nous, ce que nous avons vu hier, c'est le fonctionnement basique du cerveau. Pourquoi ? Parce que nous avons proposé cette approche de telle manière que nous puissions parler à nos enfants et leur faire comprendre. Et il y avait cet exemple de l'ordinateur que j'ai pris, qui est une métaphore, qui est une image de notre cerveau. Avec notre cerveau, nous pouvons tout faire. Nous pouvons créer, nous pouvons courir, nous pouvons anticiper des événements, nous pouvons jouer des instruments de musique, nous pouvons aimer, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ainsi que l'ordinateur, avec un ordinateur, nous pouvons faire beaucoup de choses. Sauf que si dans l'ordinateur, vous faites entrer, vous permettez à un virus d'entrer, eh bien, ça va détruire l'ordinateur. Il va devenir lent, il ne se connectera plus, il ne fera plus marcher différents logiciels, tout comme la drogue va être un intrus dans notre cerveau et il va nous paralyser de beaucoup de manières. Pourquoi cette approche aussi ? C'est parce que dans l'éducation que nous donnons, nous accompagnons nos enfants et nous leur apprenons. Et je crois que la famille est le lieu d'apprentissage le plus favorable pour que nos enfants apprennent ce que c'est que des expériences de succès et des expériences d'échec. Et on va les accompagner et on va leur apprendre à travailler avec les émotions qui vont leur venir dans des différentes circonstances. Nous avons vu aussi hier que les enfants, eux, le monde pour les enfants, avant l'adolescence, le monde est assez clair. Ils ont les parents. Alors maintenant, ça change un petit peu, puisqu'il y a aussi des familles recomposées, ou des parents célibataires, ou des familles monoparentales. C'est pas toujours si simple, mais quand même, pour un enfant, ce que le parent ou les parents disent, les choses sont assez claires. C'est les parents qui disent ce qui est bien, ce qui est mal, et les enfants acceptent, généralement acceptent cela. Le problème va arriver quand il va y avoir le passage de l'adolescence. Parce que là, à cause de ce passage qui est de l'enfance à l'âge adulte, j'ai mentionné qu'il y a quelques années où le monde de l'adolescent est plus du tout clair. Et que cet adolescent, eh bien, va se poser beaucoup de questions sur lui-même, sur sa famille, sur son environnement, sur son corps. Et les émotions certaines émotions vont l'envahir. Et là, les parents vont l'accompagner pour justement calmer le jeune et qu'il puisse reconnaître ses émotions et vivre avec ses émotions. C'est donc un accompagnement. Quand le jeune n'est pas accompagné, il va avoir certains problèmes puisqu'il va mal se sentir. Et c'est là le problème. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent mal? Le mal-être. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que mes parents m'aiment encore? Est-ce que moi-même j'étais désiré dans cette famille? Est-ce que je suis légitime de vivre? Toutes sortes de questions, nous avons vu ça hier. On ne va pas revenir en arrière, on ne peut pas, on n'a pas le temps. Mais à ce mal-être-là, de l'adolescent, il va y avoir un besoin de combler ce mal-être. Il va y avoir un besoin de compenser. Et hier, on a dit que le cerveau n'était pas fait pour être dans déséquilibre relationnel. Le cerveau, nous ne pouvons pas vivre dans le mal-être. Il faut absolument qu'il y ait du plaisir et que le cerveau puisse être remis d'équerre, remis à l'équilibre. C'est pour ça que c'est tellement important de parler du pardon, et de parler de la réconciliation, de parler du dialogue. Puisque la relation, c'est ce qui nous donne du bonheur. Il faut qu'on comprenne ça. Et si on ne sait pas comment faire pour remettre le cerveau à l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne sait pas faire ça par le rétablissement de la relation, par le dialogue, le pardon et la réconciliation, comme on ne peut pas vivre en étant dans un déséquilibre relationnel, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a d'autres choses qui marchent. C'est quoi? La drogue. Ça marche. Ça va, et on l'a vu hier, ça va pour un temps remettre le cerveau à plat, en équilibre. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'effet disparaisse. Ce qu'on a vu hier, c'était le problème, c'est, ok, le produit a eu son effet, le cerveau s'est mis en équilibre. On a une sensation de bien-être. Ce n'est pas le bien-être, c'est une sensation. C'est un sentiment de bien-être et non pas le bien-être lui-même. Jusqu'au moment où les effets partent Et de nouveau, on est en déséquilibre. Oui, on n'a rien réglé avec un produit. Le gros problème, c'est quoi? Le gros problème, c'est que ça a été enregistré dans la mémoire. Et la mémoire va se souvenir toute la vie, durant, toute la vie durant, la mémoire va se souvenir que ce produit donne des effets positifs quand on n'est pas bien. Et quand la personne va mal aller, la mémoire va lui faire rappeler pourquoi tu ne prendrais pas deux verres de whisky ? Ou bien pourquoi tu ne fumerais pas un joint ? Rappelle-toi, ça te fait tellement du bien. Et si la personne, si le jeune n'a pas appris à régler son problème relationnel, il va directement aller retrouver ce que la mémoire lui rappelle. Est-ce que c'est clair ça ? Hein, on a vu ça hier et je ne vais pas revenir en avant, revenir dessus plus longtemps. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à travailler sur la relation, si vous voulez, et on va commencer. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre. On peut vraiment, on est en petit comité. On peut en parler directement dans la séance. On aura une pause tout à l'heure et de 10 minutes pour prendre une collation. Alors, regardez. Chez nous, en France, on a une région dans le sud-ouest, du côté des Pyrénées, là, et on appelle ça le pays de Cocagne. Et il y a une fête traditionnelle dans les villages, où ils mettent un mât, c'est-à-dire un arbre, un poteau, et en haut du poteau, ils mettent un jambon de Bayonne, en fait. C'est un jambon qui est très réputé chez nous. Mais bien sûr, ils disent à ceux qui veulent essayer, allez attraper le jambon. Sauf que le poteau, ils ont mis du savon sur le poteau. Et ils doivent, donc c'est le mât de Cocagne, on appelle ça le mât de Cocagne. On vous fait miroiter quelque chose, mais c'est très difficile à avoir. Donc j'ai repris cette image pour justement vous parler que qu'est-ce que vous désirez pour vos enfants? Qu'est-ce que vous cherchez? De quoi vous rêvez pour vos enfants? On rêve de tout ça, du bonheur, qu'ils aient de la joie, qu'ils aient du succès, qu'ils aient de la détente, de la confiance en soi, qu'ils aient de l'harmonie dans leur famille et qu'ils puissent vivre dans une bonne relation. N'est-ce pas ce qu'on cherche là pour nos enfants? Eh bien, c'est ce qui est à notre portée. Normalement, nous sommes faits pour cela et c'est à ça que nous sommes destinés. Le problème, c'est que notre socle sur cette terre, on a un peu les pieds dans le béton, là, et on est aussi rempli de sentiments un peu de désespérance pour des jeunes, la peur de grandir. Qu'est-ce qui va se passer quand je serai grand? Chez nous, il y a tellement de chômage que les jeunes sont assez troublés. Et n'ont pas d'espérance. J'ai vu aussi dans les journaux ici au Canada que la jeunesse est assez désespérée de telle manière que le taux de suicide est très élevé, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'il y a une crainte. Il y a une crainte, vous voyez, la peur de grandir. Alors, c'est pas forcément de grandir, mais cette peur existentielle. Voilà ces angoisses. Qu'est-ce que je vais devenir? Et de toute façon, est-ce que ça vaut même la peine? Donc, à l'adolescence, on a tous, et parfois même aussi des enfants. Un jeune enfant peut être dépressif? Bien sûr, bien sûr. Il peut avoir ses craintes. Le stress, toutes sortes de craintes, le sentiment d'abandon, mais ça, le sentiment de solitude, que personne ne nous aime, c'est courant. La culpabilité. Et surtout quand les parents se disputent, les enfants pensent que c'est à cause d'eux. On ne sait pas d'où ça vient, ça. Mais voilà, les enfants prennent sur eux ce sentiment que, de culpabilité, que si papa et maman se disputent, ça doit être à cause de moi. Je dois être l'instigateur de cette dispute. En fait, nous voyons aussi beaucoup d'enfants qui ont été provoqués à la colère. Et il y a un verset dans la Bible qui parle au Père dans Éphésiens et qui dit « Père, allez-y, n'irritez pas vos enfants. » Ça veut dire quoi ? Ne provoquez pas vos enfants à la colère. Et dans une autre réunion, je pourrais vous montrer 30 points sur lesquels nous pouvons irriter et pousser nos enfants à la colère. Et ces enfants grandissent dans une colère, Et puis, une colère sourde. Souvent, ils la gardent pour eux-mêmes. Et puis, tout à coup, à 35 ans, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et ce garçon, ce jeune homme, cet homme maintenant, est en colère contre sa femme. Et sa femme dit, mais je ne sais pas pourquoi il est en colère contre moi, je ne sais pas. Et oui, elle n'a rien à voir là. Elle est juste l'objet de transfert de sa colère. En fin de compte, c'est un petit garçon qui a grandi et qui n'a jamais réglé sa colère. Vous voyez donc, on a tous ce socle, on a tous ce socle de difficultés. Et si on ne sait pas régler ces choses-là, on veut quand même les récompenses, c'est-à-dire on veut bien vivre. Quel que soit ce que vous mettez sous le nom bonheur ou le nom du succès, peut-être pour vous le succès c'est d'avoir un bon job ou bien avoir une place bien en vue, peu importe. Alors, si on ne sait pas régler ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire ceci. On peut justement faire appel à des drogues, de l'alcool, de la violence, des suicides. Pourquoi ? Parce que ça va nous donner un sentiment d'exister. Ça va nous aider à dépasser ces choses-là. Et le suicide, c'est de la même chose. Évidemment, il va y avoir ce sentiment, mais j'y arrive quand même. Mais comme on l'a dit hier abondamment, à un moment donné, ça ne suffit pas. Et les choses vont disparaître. Et puis, le socle sur lequel on a voulu décrocher ces rêves va disparaître. Et nous et nos enfants tombent aussi. Alors, moi, ce que je vous propose pour nos enfants, c'est parce que ces choses sont difficiles, eh bien, de les accompagner dans ces difficultés de tous les jours. Je vous propose de prendre à cœur, d'apprendre à vos enfants à résoudre des problèmes. Les problèmes, ils en auront toute la vie. Les problèmes sont là. Mais un problème n'est pas un problème. À quoi ça sert un problème ? À quoi sert un problème ? Ça sert à avancer, ça sert à réfléchir comment est-ce que je peux faire pour dépasser ce problème. Ça sait que ça sert. Attendez, les professeurs de maths ont bien compris ça. Si tu veux comprendre, le cours ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un problème pour mettre en application le cours. OK ? Donc, apprendre à nos enfants à résoudre un problème. Est-ce que c'est marqué résoudre le problème pour nos enfants ? Non. Grande différence. Ça serait plus facile. Et souvent, nous, les parents, on pense qu'il est trop petit ou bien ça va plus vite si je le fais moi-même. Mais là, vous n'êtes plus l'éducateur que vous êtes supposé être. Apprendre à prendre des décisions. Et là aussi, ça fait partie de la vie. Développer une pensée créative. Quelle est la question pour cela, mesdemoiselles ou mesdames là? Quelle est la question qu'on pourrait poser à nos enfants pour développer chez eux une pensée créative? comment tu vois les choses et comment on pourrait faire différemment. Et quelle est ton idée? De quoi tu rêves? Montre-moi. Eh bien, c'est donc poser des questions pour et ça va aider. Mais c'est vous comprenez que c'est une vie, ça. C'est pas juste une journée. Ça se passe comme ça. C'est une attitude à avoir. Acquérir une pensée critique. On parlait tout à l'heure, avant de venir ici avec des amis, on parlait que, en fin de compte, nous parents, on passe combien de temps avec nos enfants à la maison, dans la semaine, par jour? Mais pas grand-chose, pas grand-chose. Ils sont plus à l'école. Quand c'est pas l'école qui les éduque, ce sont les écrans qui les éduquent. C'est le téléphone portable, ce sont les médias, c'est la grande difficulté. Et nous, là-dedans, ils prennent comme des éponges. Et nous, on est là, et on pense que tout ce qui est envoyé chez nos enfants, c'est bon. Mais loin de là, comment est-ce qu'on va développer avec nos enfants une pensée critique? Est-ce qu'on a le droit de critiquer? Mais bien sûr, c'est même ce qui va même les sauver. Be different. Ne pense pas comme les autres, pense par toi-même. Et qu'est-ce que... Bon, moi je suis croyant, ici on est dans une église, mais c'est là où l'enseignement des Écritures, de la Bible, prend tout son sens. On reçoit toutes ces informations, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et là on dit, mais attends, on ne peut pas être d'accord avec ça. On ne peut pas être d'accord avec ça. Mais ça demande aussi de notre part des habitudes pour passer du temps. Vous savez, voilà, déjà quatre outils ou conseils. Et pour ces quatre choses, il nous faut du temps. Il nous faut absolument prendre du temps. Apprendre à communiquer efficacement. Ça s'apprend aussi à nos enfants. J'ai bien des exemples. Les enfants nous disent quelque chose vite, comme ça. Dis non. Viens me dire, parle-moi, regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu demandes. Ou bien un enfant demande quelque chose en pleurant. Dis attends, on peut parler. Parle-moi. Apprendre à construire des relations interpersonnelles. Vous savez, ça c'est un sujet qui est quand même très important aujourd'hui. J'étais dans une famille la semaine dernière, le petit garçon de 8 ans, je l'ai vu, le samedi matin, de 9h du matin quand il s'est levé, jusqu'à 5h l'après-midi, il était où? Devant les écrans. Où sont les relations interpersonnelles? Heureusement, il va à l'école, mais rien. Alors que nous, quand on était gosses, bon, d'abord, on n'avait pas la télévision. Je ne suis pas en train de critiquer, mais on n'avait pas la télévision. On était toujours dehors. On allait jouer au soccer, on allait jouer au patin à roulettes, on était toujours dehors. Vous comprenez? À être avec les amis. On s'est chipoté, bien sûr, mais on était dans la relation. Attendez, c'est un problème qui est en train d'être un vrai problème. Pourquoi? Parce que ce sont des relations virtuelles. Et encore, pas de relation du tout. Quand on fait un jeu seul, eh bien, on est là, et c'est la génération pousse, n'est-ce pas? Hein? Et voilà. Donc ça, c'est quand même. Attendez, quand vous arrivez dans une maison et les jeunes sont tellement accros à leurs écrans qu'ils ne se lèvent, pas pour dire bonjour. Où sont les relations? Quand la maman dit « il faut mettre le couvert », personne ne bouge. Donc c'est quand même quelque chose d'un bien important. Prendre conscience de soi, on va le voir tout à l'heure. Je suis important, je suis unique dans le monde et j'ai la légitimité de vivre. Prendre conscience de soi. Ne t'excuse pas de vivre. Tu as le droit, tu as la place. Tu es désiré, c'est prendre conscience de soi. Oui. Développer de l'empathie pour les autres. Quelqu'un souffre, Quelqu'un souffre. On en a parlé hier de l'empathie. Eh bien, je ne suis pas à ta place, mais je vois que tu souffres. Et ça fait très mal. Si vous dites, je suis passé par là, ce n'est pas la même chose. C'est pas mal, mais ce n'est pas la même chose. Si vous dites, oui, oh là là, ça doit faire mal. C'est autre chose, c'est bien plus profond que si vous dites, ah oui, je suis passé par là. La personne en face de vous, si vous dites, je suis passé par là, bon, et alors ? Elle n'est pas reconnue dans sa souffrance. Quand vous dites, oh là là, je vois que tu souffres. Là, elle est reconnue dans sa souffrance. C'est, est-ce que vous me suivez là ? Essayez ça, la prochaine fois. La prochaine fois que quelqu'un souffre, que ce soit un enfant, je vous donne un exemple, ou que ce soit un adulte, au lieu de lui dire, bon, ça va passer, ou bien, je suis passé par là, ou bien, bon, ça arrive. Ça n'aide personne, ça. Mais si vous lui dites, oh là là, ouf, ça fait mal, vous allez voir que la personne, elle est tout de suite reconnue dans sa souffrance. Je vous donne cet exemple. On était dans un camp familial et avec les parents, on était en train de jouer au volley. Quelques mètres plus loin, là, il y avait quelques mamans qui parlaient ensemble et des petits enfants qui étaient en train de s'amuser. Voilà. Puis il y a un petit garçon de 4 ans. Il court et puis il tombe par terre et il s'écorche un peu le genou. Et il pleure, et il pleure. Il pleurait pas, il braillait, comme on dit en français. Hein. Et il pleure, il pleure. Et sa maman vient, et puis elle sur le genou, n'est-ce pas? Et puis il continue à pleurer. Et la maman, ne sachant pas quoi faire, dit, bon, mais c'est bon, arrête de pleurer maintenant. T'as plus mal. T'as plus mal. Comme elle le savait qu'elle avait plus mal. Et donc l'enfant continue à pleurer. Et la maman, maintenant, était agacée, même énervée. Alors, j'ai vu ça de loin et je me suis mêlé de ça. Bon, c'est des formations professionnelles. Je suis allé voir le petit garçon et je lui ai dit, oh, j'ai vu comment tu es tombé. Hein. Oh là 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 là, quelle chute! Ça mérite de pleurer au moins 10 minutes. Parce que tu dois avoir drôlement mal. Et puis le petit garçon, il dit, non, ça va, ça va, ça va. Hop, il est parti jouer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Sinon que j'ai reconnu sa souffrance. Si vous gardez ça ce soir, vous allez faire beaucoup de bien à des centaines de gens. Un deuil. Vous faites quoi? Mais des très bons amis ont perdu leur fils aîné, 4 garçons. Le premier s'est tué en voiture, il avait 20 ans, il y a 2 ans. Le samedi soir, il n'est pas allé au groupe de jeunes, il était mort. Et le dimanche matin, j'étais là, je suis allé chez eux. Et j'étais là, elle était là, lui était là, et j'étais là. Et on a pleuré ensemble, et j'ai reconnu leur douleur. J'ai dit, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait trop mal. C'est trop difficile, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais ils savent, ils se sentent. Il y a quelqu'un qui quoi? Allez-y, plus fort. Qui comprend, quelqu'un qui comprend. C'est ça l'empathie, hein. C'est ça l'empathie. Voilà. Alors, apprendre à gérer son stress, parce que oui, les jeunes ont du stress. Des fois, il faut leur mettre un peu de stress, hein, mais souvent, ils sont aussi stressés. Et puis, apprendre à gérer les émotions. Ah, ces émotions qui sont là pour une bonne raison, Dieu les a laissées là, mais les émotions ne sont pas la locomotive. Les émotions, ce sont les wagons. Si on met les émotions au départ, à la place de la locomotive, ça ne va pas marcher. C'est la pensée qui est la locomotive et les émotions qui suivent. C'est ce que vous croyez qui est important, pas forcément ce que vous pensez. Vos émotions peuvent vous tromper, évidemment. Donc, apprendre à gérer ses émotions, à les écouter, évidemment. Et là, on va avoir un socle pour justement, eh bien, atteindre ce qui va être faire notre bonheur. Alors évidemment, nous on a mis 10 conseils, on pourrait en rajouter bien sûr beaucoup d'autres, mais ça vous donne une idée que c'est une vie, ça, c'est une attitude, n'est-ce pas, à avoir, et c'est un socle sur lequel l'éducation peut se faire. Voilà. Alors, bon, on va poser la question, comment vous vous sentez, hein? Là, maintenant, comment ça va? Ça va? Vous vous sentez bien? Comment vous vous sentez? Allez, dites-moi. Dites-moi, comment vous vous sentez, les filles? Mais pas juste bien. Vous voyez que c'est difficile? Vous voyez que c'est difficile de mettre des mots, à moins que vous ayez... Je vais trop vite. Comment vous vous sentez? Fatigué. Voilà, non, c'est fatigué, d'accord. C'est la fin d'une journée, c'est fatigant. Encore écouter un français pendant 2 heures. D'accord. Mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour demander à nos enfants, comment te sens-tu? Souvent, nous-mêmes, nous n'avons pas les mots pour raconter comment on se sent à l'intérieur. Demain, ce soir, je vous ai dit que je vous donnerai une feuille. Connaissez-vous bien vos enfants? On le fera tout à l'heure. Et demain, j'aurai justement un peu des faces comme ça. Et vous pouvez photocopier ça sans problème. Et vous allez demander à votre enfant, ne me dis rien, ne me dis rien. Montre-moi comment tu te sens. Et là, il va chercher, comme ça. Ah, ok. Tu peux m'expliquer pourquoi tu te sens comme ça? Ah ouais, il y a mes amis, ils n'étaient pas gentils avec moi. Enfin, après, ils vous racontent ce qu'ils veulent, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça va être un outil pour vous, pour aider les jeunes à mettre des mots sur les émotions. Alors, facteur de risque, facteur de protection, nous sommes toujours dans cette prévention de drogue. Alors, qu'est-ce que c'est que des facteurs de risque? Et alors, facteur de risque, c'est la vulnérabilité de l'enfant et les événements qui peuvent le fragiliser et le prédisposer à choisir des conduites à risque. La vulnérabilité, il y a des enfants qui sont plus vulnérables que d'autres. Hier, on a dit on n'est pas tous égaux devant la drogue. Et il y a aussi des événements qui peuvent le fragiliser. Je vous ai dit, hier, moi j'habite dans les villages où ils font du vin. Et l'alcool est un vrai problème. Et parce qu'on habitue les enfants à boire. Ils voient que ça, ça fait partie de la vie. Même le vin, c'est comme un dieu, quoi. C'est une idole. On parle que de ça, on fait que de boire. Et donc les enfants grandissent avec ça. Sauf qu'à 25 ans, ce sont des alcooliques, quoi. Parce que ils sont vulnérables à cela et les événements qui le fragilisent. Voilà, je vous ai donné un exemple et ça peut le prédisposer à choisir des conduites à risque. Et alors le facteur de protection. Le facteur de protection, ce sont ces ressources qu'une personne peut tirer d'elle-même et de son environnement pour se créer des capacités sociales et des relations fortes avec les autres. C'est-à-dire que j'ai entendu quelqu'un qui, je ne sais pas où c'était, si c'était hier, ou quelqu'un qui a pris un joint, et il a beaucoup aimé. On les appelait comment ceux-là, hier? Il y avait ceux qui aiment beaucoup, il y avait ceux qui ont été très malades, et il y a ceux qui sont, bon, on peut prendre un joint, c'est pas grave. Alors, ceux qui sont très malades, on les a appelés comment? Les vénards. Ils ont tellement été malades que pour eux, ils sont guéris, quoi. Après, ceux qui prennent un joint de temps en temps, du bois, mais ça, c'est pas ma tasse de thé, c'est des indécis. Et puis, les victimes, ce sont ceux qui aiment beaucoup la première fois. Et ils tombent dans le panneau. Eh bien, ce garçon-là, il a pris un joint et ça lui a fait tellement plaisir qu'il en a eu peur. Et il a laissé ça. Ça veut dire que ce garçon, il a eu des ressources en lui-même, d'où elles viennent, je ne sais pas exactement, si c'est l'éducation qu'il a reçue ou bien si l'intelligence qu'il a eue, mais il a dit, oh là là, c'est très dangereux. Et donc, il s'est éloigné de cela. Mais c'est donc des ressources qu'une personne tire d'elle-même, de son environnement, un environnement protecteur, pour se créer des capacités sociales et des relations fortes avec les autres. Alors, qu'est-ce qui peut conduire un jeune à essayer la première fois ? C'est à multiples raisons. Et les émotions normales de l'adolescence. Envie de faire des expériences nouvelles. La curiosité, tout ça, ce sont des possibilités, évidemment. La recherche de plaisir et d'émotions intenses. On s'ennuie à l'adolescence, souvent on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire de nous-mêmes, mais il y a aussi les copains, évidemment, et il y a la pression du groupe et le conformisme. Et jeudi soir, quand les jeunes vont venir, je vais leur parler du fonctionnement du cerveau, et dans un deuxième temps, je vais leur donner un outil, comment résister à la pression négative des copains. Comment dire non ? Et je vais les pousser à se mettre en colère. Et je veux vraiment qu'ils ressentent la colère. Et cet outil-là peut leur sauver la vie. Bon, pas à la fin de la semaine, probablement, mais ils vont tellement s'en rappeler que quand ils vont être en situation, ils vont s'en souvenir. Mais résister à la pression des groupes, c'est quand même très important. Il y a aussi la culture de la défonce, c'est-à-dire toute la musique qu'on entend, les Bob Marley et le reggae, qui préconisent la fumette et l'absorption de drogue, les chansons, les débats, les associations, la méconnaissance des dangers de la drogue. Voilà, l'enfant ne sait pas, le jeune ne sait pas, on lui a jamais dit, donc il en prend. Manque d'esprit critique, vous voyez, on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, la naïveté, on ne lui en a pas parlé. Et alors, qu'est-ce qui conduit un jeune à consommer régulièrement et à devenir dépendant ? Eh bien, ouais, on l'a dit hier et aujourd'hui, le cerveau est maintenant marqué par le plaisir de la substance. Et on veut retrouver ce plaisir-là. C'est marqué dans la mémoire. Et il y a aussi des événements déclencheurs. Comme, par exemple, j'ai parlé hier de ce garçon qui s'est fait larguer par sa copine. Ça a déclenché chez lui une telle angoisse qu'il fallait absolument avoir un remède pour compenser son angoisse. L'angoisse est vraie. Le mal-être est vrai. Mais qu'est-ce qui est faux ? Le remède. C'est une fausse potion magique. Et parfois, avoir commencé très tôt, c'est pour ça que moi je dis pas d'alcool avant 18 ans. Pas d'alcool avant 18 ans. C'est même légal dans le pays, non ? Ouais. Pas chez nous, hein. Chez nous, c'est 16 ans, je crois. Même peut-être 18 ans maintenant. Ça a changé, mais c'est un gros problème. L'alcool est un immense problème dans les collèges, c'est-à-dire à partir de 12 ans jusqu'à 15 ans. Bon, après, dans les lycées aussi. Mais ma femme qui a enseigné des années 10 ans dans un collège, le problème, c'est que les enfants viennent, ils sont ivres. Et souvent, ce sont des enfants de classe sociale assez élevée qui se laissent entraîner, ne voient pas le problème. Et comme voilà, et ils arrivent, ils ont des comas éthyliques. Hein, c'est vraiment un problème en France. Une vulnérabilité génétique, eh ben oui, voilà, ça se peut. Des terrains bipolaires ou de schizophrénie, j'en ai parlé un petit peu hier. Les psychiatres ne disent, ils ne le disent pas, ils ne veulent pas s'avancer si, mais on, nous savons que la drogue multiplie par 6 les chances d'être bipolaire ou schizophrène. Alors on ne sait pas. On ne sait pas si c'est parce qu'ils sont bipolaires sur ce terrain bipolaire ou schizophrène qu'ils prennent de la drogue pour se, comme pour se soigner, n'est-ce pas, pour aller mieux, ou bien si vraiment c'est la drogue qui produit cet état. La compulsivité, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher, l'hypersensibilité, on verra demain les effets des drogues, on verra tout ça, et la difficulté à gérer ses émotions. Sentiment persistant de ne pas être aimé, ça, c'est, ça revient à ce que je dis, le cerveau ne peut pas être en déséquilibre relationnel. Sentiment de solitude, les relations familiales en souffrance, il n'y a rien qui peut faire plus souffrir que cela. Besoin d'être reconnu, on en a parlé hier, mauvaise image de soi. Vous voyez, toutes ces choses-là, eh bien, sont autant d'éléments qui peuvent justement déclencher pousser un jeune à prendre de la drogue. Encore une fois, la cyberdépendance, c'est un même produit. Parce que quand je suis devant mon écran et bien occupé à des choses qui me passionnent, où est mon mal-être ? Hein ? On ne s'en occupe pas. Donc, on l'a anesthésié. Sauf que quand on éteint l'écran, ça revient, n'est-ce pas ? Donc, c'est la même chose. C'est le même mécanisme dans la tête. C'est la même chose. OK. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est ? L'estime de soi, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes et la façon dont on pense que les autres nous regardent. Ce que nous croyons être, ce que nous croyons avoir le droit de faire ou d'espérer, ce que l'on croit être capable de faire est défini par défaut par tous les regards que les autres ont posés sur nous. Ça, c'est une définition de l'estime de soi. Enfin, et on va voir qu'en fin de compte, nous sommes le produit du regard que les autres ont posé sur nous. Mais ça n'a pas besoin de continuer comme ça. Vous savez, quand on nous a dit les messages « Tu es voleur », parce que j'avais volé quelque chose, « Tu es un bon à rien », de toute façon, « Tu es... » Tu es, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es, en deux mots. Ça veut dire ton identité, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Or, ce n'est pas parce qu'un enfant a volé quelque chose qu'il est lui-même voleur. Il a volé, oui, mais lui-même n'est pas voleur, dans le sens de son identité. Je ne cautionne pas ce que tu as fait, mais toi, je t'aime toujours. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une différence entre la personne et ce qu'elle fait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Il y a une différence entre la personne et ses actes. Tu es toujours comme ça. Tu n'es jamais assez bien. On a tous entendu ces choses-là. Regardez, je commence par des regards constructeurs. Ce sont la somme des regards qui ont été posés sur nous, comme tu as toutes les capacités pour réussir. Ça, c'est vraiment encourageant. « Oh, je crois en toi, je crois que tu es capable de le faire. » Ou bien « Oh, c'est intéressant ce que tu dis là. » Ce sont des messages que nous les avons reçus. Eh bien, ces messages peuvent nous conduire à développer des croyances sur nous et sur nos capacités. Comme quoi, par exemple, en ayant écouté ces messages, on se sent comment ? Capable d'avancer dans la vie. Oui, je peux y arriver. Ou bien mon avis compte, ben voilà, ça dit quelque chose. J'aimerais bien devenir musicien, ça veut dire que j'imagine que je peux le faire. J'ai de la valeur. Et puis je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Eh bien, ces messages, ces croyances vont nous pousser à adopter certains comportements. Pourquoi je dis ça? Parce que notre comportement est directement lié avec ce que nous croyons, avec ce que nous pensons, ce que nous croyons de nous. Si j'ai cru c'est des messages sur moi-même qui m'ont donné une colonne vertébrale, mon comportement va être directement lié à ce que je crois. Donc, je vais pouvoir savoir dire non, savoir dire oui, mettre des limites. Je vais pouvoir dire ce que je pense, parce que j'ai cette croyance que je suis légitime et je peux dire ce que je pense. Je peux prendre des initiatives, je ne vais pas m'excuser de vivre. Je me sens légitime et je peux vivre dans la réalité et ne pas fuir des circonstances difficiles ou des galères. Alors, mais bien sûr, ça c'était le côté positif. Mais il y a aussi beaucoup de côtés négatifs dans les regards que nous avons reçus. Par exemple, je reprends le même topo, c'est donc la somme des regards qui ont été posés sur nous, comme « t'es pas très malin, toi. T'es pas fait pour les études, toi. Regarde ta sœur. Elle travaille tellement bien. Mais toi, vous voyez, là, on est en train d'enfermer quelqu'un dans un message. Mais vous savez, on l'entend une fois. Bon, ça passe. On l'entend deux fois. C'est déjà plus ancré. On l'entend trois fois. Puis après, c'est l'instituteur qui l'a dit. Pourquoi tu ne travailles pas comme ta sœur? Et puis après, c'est le pasteur qui dit ça. Et puis après, c'est l'oncle et la tante et tout ça. Finalement, on se dit, ouais, il y a tellement de gens qui me disent ça. Ils doivent avoir raison. Et on intègre ce message. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Pourquoi tu ne travailles pas aussi bien que ta grande sœur? Eh bien, ces regards négatifs peuvent nous conduire à développer des croyances, écoutez bien ce mot-là, des croyances sur nous-mêmes et sur nos possibilités. Ouais, c'est vrai, je ne suis pas très futé. Je ne suis pas très intéressant. De toute façon, j'y arriverai jamais. On me l'a dit. J'ai pas de valeur. Je suis quelconque. Écoutez, moi, une fois, j'étais dans le train, là, en France, et je parlais avec une jeune femme de 25 ans qui avait un petit bébé de 2 ans. Et puis, on parlait, et tout à coup, elle me dit, vous savez, ma sœur, nous sommes deux filles à la maison, ma sœur, elle est très, très belle, un beau visage, très belle, très claire. Mais vous voyez, moi, je suis quelconque. De toute façon, regardez comme je suis. Elle a dit, et mon père m'a toujours dit qu'il m'avait trouvé dans une poubelle. Et elle avait intégré cela. Et elle m'a raconté sa vie. Toute sa vie était basée sur ce message. Je ne suis pas assez belle ou assez bien pour intéresser les gens. Et donc toute sa vie, c'était de faire de sorte de se rendre suffisamment intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle avait intégré ce message. Et en fin de compte, c'était une prostituée. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la croyance, sa croyance de base, elle a dit, il faut que, absolument que je puisse intéresser les gens. Et donc, elle a utilisé son corps. On est beaucoup là-dedans. Hein. On ne peut pas m'aimer, et ben voilà, je vais faire de sorte qu'on m'aime. Ce n'est pas de l'amour, mais voilà. Hein. Et ben ça va nous pousser à adopter certains comportements, tout faire pour attirer l'attention, ou bien le contraire. Donc, ou bien je vais être un garçon peut-être dans la violence, ou une jeune fille peut-être dans la provocation, pour qu'on porte de l'intérêt sur elle, ou bien au contraire, on fait le profil bas, et on va s'excuser de vivre. On ne peut pas prendre d'initiative parce qu'on n'est pas capable et on ne se sent jamais à sa place. Est-ce que j'ai le droit d'être là ou est-ce que j'ai le droit d'être là? De toute façon, on m'a toujours dit que j'étais de trop dans ma famille. Donc on va toujours s'excuser pour tout. Et alors, quand il y a une difficulté, on va fuir la réalité. Jusqu'à quand? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne s'aime pas? Et vous voyez, c'est bon pour nos enfants. Quand on se trouve nul, sans valeur, sans intérêt, sans perspective réjouissante, quand on voit tout avec des lunettes sombres, quand on a même du mal à vivre avec nous-mêmes, alors, c'est vrai, consommer un produit, est-ce que ça peut faire la différence? Oui, pour un temps, pour un temps. C'est toujours le problème, c'est toujours la même chose. On va modifier notre état de conscience et le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Alors, c'est ça qui est terrible. Si on ne fait rien, on va s'apercevoir que les contours de notre existence sont tracés au crayon par les autres et par les remarques qui nous ont définis. Donc nous sommes le produit de toutes ces remarques qui sont venues sur nous. Si on a la chance d'avoir eu des gens compréhensifs et des gens qui nous ont acceptés, alors on va être porté. Mais en France, j'ai le regret de dire qu'en France, on a cette culture de dévaloriser les gens. En France, c'est terrible. Vous demandez à votre enfant de laver la table après manger, après le repas. Quand il a lavé la table, vous dites rien. Voilà, voilà, il a lavé la table. Quand c'est bien, c'est normal, on ne dit rien. Mais alors s'il reste 3 miettes, hein, là il va entendre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi on n'est pas capable de dire « t'as fait un bon job, quoi. C'est bien, je suis fier de toi. » C'est fou, hein? Mais c'était notre culture. Dans les entreprises, c'est comme ça. Il y avait ce patron qui avait engagé quelqu'un et qui travaillait bien. Et un jour, il lui demande de venir à son bureau. Et le type, il était tremblant. Il dit, mais attends, mais assieds-toi tranquillement, j'ai besoin de parler avec vous. Et lui dit, mais pourquoi vous êtes si énervé? Non, mais parce que dans l'autre compagnie, quand le patron m'appelait, c'était toujours pour me casser, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, cette croyance qu'on n'a jamais fait assez bien, parce qu'on n'a pas été valorisé. Alors, on peut passer sa vie à fonctionner avec une identité qui a été définie par les autres et donc à subir notre vie. Et on peut un jour dire non. Alors, à ce moment-là, moi, je, parce que je suis croyant, je vais dire, mais quel est le regard que Dieu porte sur moi? C'est lui seul qui peut dire qui je suis. Est-ce que les autres sont même légitimes, capables de me dire qui je suis? Et moi, ce que j'ai trouvé dans l'Évangile, c'est justement ce regard positif de Dieu qui est devenu mon Père et qui me dit qui je suis. Un homme qui est bien aimé, un homme qui est capable aussi de faire sa vie et de vivre sa destinée, et je peux être acteur de ma vie. Donc c'est là le changement. Je décide de dire, ok, ce que les autres ont dit de moi, c'est une chose. Ce que lui dit de moi, ça je le prends. Est-ce que vous me saisissez? Ou bien on se laisse définir par les autres, ou bien vous décidez de vous laisser définir par le regard du Père. Ça c'est carrément différent. Et donc je vais changer de croyance. Ce qu'on m'a dit maintenant, bon, ça m'a fait souffrir, mais maintenant je n'ai plus besoin. Et je vais croire en mes possibilités. Dieu me rend capable de vivre ma vie d'homme. Je définis donc ce que je veux pour ma vie et je me mets au boulot pour avancer. On va s'arrêter là, je crois. Voilà. On va s'arrêter là, si vous voulez, pour. On va prendre 5 minutes de pause, prendre quelque chose. D'accord? Est-ce que ça va? Ça va là? Ok, merci beaucoup. On va revenir tout de suite dans... Juste le temps de se détendre un petit peu. compte et la valeur que j'ai. Alors voilà, comment est-ce qu'on va reconstruire notre image de nous-mêmes? Alors c'est d'abord une décision, puis bien sûr la décision va demander, à la suite de cette décision, ça va demander du temps. La première chose, c'est accepter que le changement nécessite du temps et du travail. Et se réjouir de tous les petits progrès que nous pouvons faire dans nos réactions. Et encore une fois, ça demande du temps. Quand on m'a dit pendant toute ma jeunesse, on m'a fait passer un message négatif, maintenant je reçois un message positif de la part de Dieu, que je suis son enfant bien-aimé, ça me prendra quand même un peu de temps jusqu'au moment où je vais marcher avec cette vérité, n'est-ce pas? Mais on va faire des progrès et ça va aller. Et regardez cette phrase, s'entourer des gens qui croient en nous, mais fuir les autres, ceux qui vous tirent vers le bas. Pourquoi vous restez à côté? Vous voulez du mal? Vous voulez du mal? Non. Laissez-les. S'ils ne vous apportent pas quelque chose, n'essayez pas de les changer, mais vous vous occupez de vous-même. Identifiez les fausses croyances que l'on a sur nous-mêmes, sur soi-même. Souvent, on se dévalorise. Oui ou non? On se dévalorise. Ouais, je suis... bon à rien. C'est vrai, ils avaient raison. Je suis nul. C'est une fausse croyance. Dieu m'appelle jamais nul. Il me dit, tu es mon bien-aimé. Ça vous fait quoi, ça? Rien. Ce matin, dans la douche, Dieu me dit, t'es mon fils. Moi, ça me fait vivre. Mais ça n'empêche pas que certaines pensées me viennent. Mais les pensées qui me viennent, ces fausses croyances d'avant, je ne les prends plus. Je les mets de côté pour accepter cette parole qui me donne de cette assurance. Donc, identifiez les fausses croyances, mettez-les en rapport avec la parole de Dieu et vous allez voir. Et vous allez choisir ce qui est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est cette vérité-là qui nous rend libres. Pardonner, sortir du statut de victime, régler nos vieux dossiers. Le pardon, c'est l'huile essentielle. De toute façon, on ne peut pas s'en passer. Le pardon, franchement, si on n'apprend pas à nos enfants, et moi j'allais dire, c'est à ça que ça sert, les conflits dans la famille. Moi je ne suis pas contre, quand il y en a trop, ça fatigue. Hein. Mais les conflits dans la famille, je ne suis pas contre. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion d'apprendre à nos enfants ce que c'est que le pardon, et comment gérer un conflit, et la réconciliation. Éventuellement consulter un professionnel. Alors, écoutez, quelle heure est-il là? On a le temps. Voilà. Alors, on va continuer. Je ne vais pas commenter ça. On va aller assez vite parce que je voudrais davantage commenter la deuxième diapositive. Quels sont les bénéfices d'une bonne image de soi? On a tout intérêt à avoir une bonne image de nous-mêmes. Eh bien, on a moins de solitude, puisqu'on ne se hait plus soi-même. On ne se réveille plus tous les matins avec de l'angoisse ou de la colère. Pourquoi? Parce qu'on est apaisé avec soi-même. On n'est plus en guerre avec quelqu'un. On n'a plus besoin d'être dans la compétition. On n'a plus besoin de se montrer supérieur à l'autre, ou bien de montrer comment l'autre est nul. On a envie de vivre dans la réalité et on n'a plus besoin de s'évader dans le rêve. Pourquoi? Parce que on est bien en nous-mêmes, on a une bonne image de nous-mêmes. On apprend à dire ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas. Écoutez, savez, c'est fatigant d'entendre quelqu'un qui se plaint tout le temps. Oui ou non? Comment est-ce que vous faites pour aider quelqu'un à sortir de la plainte? Ça, c'est... Je suis en train de donner quelques éléments de ma profession, là. Comment est-ce que vous aidez quelqu'un à sortir de la plainte? C'est pour les demoiselles qui font des études en sciences sociales, là. Comment vous faites? Oui, parce que si... Parce que là, quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui se prend pour une victime, va fatiguer toutes les personnes à qui elle parle. Mais elle ne bougera pas, elle ne changera pas. Allez-y. Le moteur du changement, c'est elle. Mais comment vous allez faire pour qu'elle s'empare de ce moteur du changement? Moi, j'ai qu'une seule question. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas? Voilà un papier, un stylo, tu crie ça. Qu'est-ce que tu veux dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux? Et à côté, qu'est-ce que tu ne veux pas? Quand tu auras des réponses, on reparlera. Si tu n'as pas de réponse, on ne se parle plus. Jusqu'au moment où tu as une réponse. Et je tiens bon. Ça peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines. Ah oui, mais c'est comme ça. Et tout à coup, la personne dit, ben, ce que je veux, c'est ça, ça et ça. Ce que je ne veux pas, c'est... Ah, là, elle n'est plus dans la plainte. Elle se projette déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle n'est plus en train de critiquer les uns les autres. Elle parle d'elle-même. Elle est moteur maintenant du changement. Ça ne va pas aussi simplement, mais c'est dans le principe, c'est comme ça. Et là, on apprend à dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. On se sent de plus en plus capable de réaliser quelque chose, on n'est plus systématiquement remis en cause par ce que disent les autres, parce que les autres, ils peuvent parler, mais voilà, moi je vais quand même avancer. On développe une conscience autonome, on ne vit plus sous la culpabilité permanente ou la peur de mal faire. On se sent enfin accepté par les autres pour ce qu'on est et non pas pour ce qu'on fait. On se compare moins aux autres, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On ne se laisse plus marcher sur les pieds aussi facilement. Et en fin de compte, on pense qu'on est digne d'être aimé. On apprend à avoir confiance en ses propres capacités à avoir des relations sur la durée. Bon. Ce n'est pas qu'on est devenu maintenant les plus beaux et les meilleurs. Et les plus... Non, pas du tout ça. C'est simplement qu'on prend notre place. Pas plus que notre place, pas moins que notre place. Okay. Et on apprend aussi à recevoir les félicitations. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce qu'en France, on dit, madame, oh, votre repas était très bon. Oh, vous savez, c'était des restes dans le frigidaire que j'ai mis comme ça. Oh, madame, vous êtes très bien habillée. Oh, ce sont des soldes que j'ai achetés là, derrière le marché. On est toujours... Ici, en Amérique du Nord, on dit quoi? Hein? Ça ressemble bien à la même chose? Mais pourquoi on ne dit pas « Oh, madame, votre repas était très bon. » Oh, ben merci, c'est fini. Merci, c'est fini. Au lieu de s'excuser de vivre, quoi. Ça, c'est quand même le bénéfice d'une bonne image de soi. Maintenant, ce qui nous intéresse pour nous, mais vous comprenez bien que pour éduquer nos enfants, nous-mêmes, nous avons besoin d'être bien dans nos baskets. On a besoin d'avoir notre colonne vertébrale bien solide, n'est-ce pas, et bien droite. Donc, c'est pour ça que je suis passé par là et j'ai discuté de ces choses-là. Maintenant, comment renforcer l'image de nos enfants, l'image de soi de nos enfants? Être un miroir positif pour nos enfants. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Être un miroir positif pour nos enfants. Pardon? Donner l'exemple. Quoi d'autre? Croire en eux et refléter simplement ou donner des réponses qui font grandir les enfants. En tout cas, être miroir, c'est déjà être là. Voir autant possible le bon côté des choses dans chaque situation. C'est vrai que dans les situations, il y a quand même des solutions. On ne les voit pas tout de suite, les solutions. Et c'est vrai qu'il y a parfois, il y a des circonstances très difficiles, on ne voit pas clair. Et maintenant, voir autant que possible le bon côté des choses dans chaque situation, moi je dirais ne pas aller trop vite là-dedans. Quand un enfant vient avec un fardeau, je vous raconte l'histoire de ce garçon de 10 ans qui venait chez son père, un type qui faisait 1m85, un balèze comme ça. Il était petit garçon comme ça et il disait « Papa, vraiment j'ai un problème là, je ne sais pas comment faire ceci et cela. » Il avait un problème. Et le père, de son 1m85, il dit « Ouh, ça c'est vraiment un problème. Je sais, à ta place, je ne saurais pas comment faire. Laisse-moi 2 jours pour y réfléchir. » Ok. Le petit garçon, il partait. Comment il se sentait? Écoutez. Apprécié. Le père avait écouté l'enfant et il se sentait apprécié et surtout entendu, écouté. Le petit garçon allait voir sa maman qui faisait le repassage. Il dit, maman, j'ai un problème. La même chose. Oh, t'as qu'à faire ça, ça ira bien. Il n'était pas du tout intéressé. Pourquoi? Parce que comme vous venez de dire, il avait besoin d'être écouté. Les enfants n'ont pas forcément besoin d'avoir les solutions, tout de suite en tout cas. Mais ce dont ils ont besoin le plus, c'est d'être écoutés. Donc, à prendre le temps, là. Et puis après, on va dire, bon, qu'est-ce que tu peux faire? C'est exactement l'enseignement que j'ai donné en première partie. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Provoquer... susciter une pensée créative, quelles sont les possibilités, quels sont les pour, quels sont les contre, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, mais ça demande du temps et on n'a pas beaucoup de temps, nous les parents, mais les enfants ont besoin de notre attitude patiente comme ça. Mettre en avant leurs talents et leurs capacités, dis donc, tu es capable de le faire, je te donne cette responsabilité, tu peux le faire. Accepter qu'ils puissent suivre des parcours hors normes. Ça veut dire quoi? Que même dans une même fratrie, une même famille, tous les enfants ne sont pas... Enfin, ils ne sont pas les mêmes. Chez nous, en Afrique, on dit quoi? Même mère, même père, même moustiquaire. Mais les enfants sont différents. Hein, et l'aîné est différent du deuxième, du troisième, du quatrième... Et les besoins sont différents. Et à l'école, ça ne marche pas de la même chose. Et un enfant va être plus extraverti, l'autre sera introverti, et l'autre sera entre les deux. C'est complexe. C'est complexe. Et certains de nos enfants ne vont pas pouvoir se mettre dans le moule de l'école, peut-être. Il faut accepter ça. Vous savez, nous, on a des valeurs. On dit, bon, à 6 ans, il faut qu'il sache lire. À 12 ans, il faut qu'il soit au secondaire. Et à 18 ans, il faut qu'il rentre à l'université. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Et s'il ne rentre pas à l'université, c'est un problème? Ça ne fait pas de lui un homme? S'il fait un apprentissage? Ça fait quoi? Après, on ne s'en souvient plus. Vous voyez, on met souvent du stress chez nos enfants. Alors moi, je suis pour les encourager, pour les pousser. Parce qu'en les poussant, ils vont développer des compétences. Mais attention, il y a des enfants qui ont des parcours hors normes. Il faut les reconnaître. Et on a trop d'enfants qui ont souffert parce qu'on voulait les forcer dans des moules. Ils n'y arrivaient pas. Les aider à sortir des situations d'échec. Alors, on a bien dit ça hier. On apprend beaucoup plus souvent des situations d'échec que des situations de réussite. Mais il faut les accompagner. Qu'est-ce que tu apprends? Je me rappelle, moi, j'avais 18 ans, mes parents travaillaient dans une maison d'enfants. et j'avais mon permis de conduire. J'avais un dimanche après-midi emmené des enfants, des jeunes dans la camionnette. On était, il y en avait 8 ou 9, et j'ai mis la camionnette sur le côté dans un village comme ça. Bon, je devais conduire très doucement, hein, mais la camionnette s'est mise sur le côté, quoi. Et mon père m'a même pas engueulé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu apprends de ça? Comment est-ce qu'on fait maintenant? Ben, chapeau, quoi. Moi, je m'attendais que il allait prendre mon permis de conduire. Non, pas du tout. Il dit, viens, on va parler. Qu'est-ce que tu apprends de ça? Ça m'a beaucoup plus appris que une autre attitude de punitive, on va dire ça. Répondre à toutes leurs questions. Les jeunes ont des questions, les enfants ont des questions. À partir de quand on parle de sexualité avec les enfants? Tout petit, tout petit. Pas plus, on ne va pas parler au-delà des questions qu'ils posent, mais on va répondre à leurs questions, toutes leurs questions. S'intéresser à leurs rêves, leurs projets, être prêt à écouter sans juger, leur consacrer un temps exclusif dans nos journées. Alors ça, ce n'est pas facile. Parce que nous-mêmes, on a la pression, on a du stress. Mais quelque part, moi, j'allais dire, éteignez cette télévision, quoi. Éteignez cette télévision. Il faut du temps en famille. Combien de repas vous prenez en famille par semaine? Moi, je préconise au moins 5 repas en famille par semaine. Où il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la radio, on est là, on éteint les téléphones cellulaires et on est là, on est en famille, on prend du temps, on pose des questions et pas toujours les questions comment c'était à l'école, quoi, autre chose. Hein. Parce que nous, les pères, je parle pour moi, ma femme, ça l'agaçait parce que j'avais toujours les mêmes questions à table. Est-ce que vous avez eu des notes ce matin? C'était pas le genre de conversation que les enfants voulaient avoir tous les jours à table, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais quand même, le temps du repas, c'est quand même un temps qui est consacré à chaque enfant. Si on permet à chaque enfant de s'exprimer, parce que souvent les aînés prennent la parole et prennent aidez-moi. Hein? Et ils prennent le contrôle de la conversation et les petits, ils voudraient bien dire quelque chose, mais ils sont submergés par les grands, là. Hein? Éviter les remarques désobligeantes, dévalorisantes ou blessantes. Et moi, j'allais dire, c'est par rapport à la personne. Il faut bien faire la distinction entre le comportement de l'enfant et l'enfant lui-même. Ce qu'il fait, c'est une chose. Ce qu'il est, c'est encore une autre chose. Et bien faire la différence. Je ne serai jamais d'accord avec toi pour les joints que tu fumes. Je serai toujours contre le produit. Mais toi, je t'aimerai toujours. Et je t'aime tellement que je suis contre que tu te détruises. Donc, je ne suis pas d'accord que tu me mentes. Mais toi, je t'aimerai toujours. Ne pas faire tout à leur place, faites-les travailler. Alors, faites-les travailler dans le sens, donnez-leur des responsabilités. Pourquoi vous devriez tout faire à la maison? Ils ont aussi leur place et leur responsabilité et leur contribution. C'est ça que je suis en train de dire. Et leur confier des responsabilités gratifiantes. Être prêt à demander pardon lorsque l'enfant, on a blessé l'enfant. Alors, le pardon, ce n'est pas que les enfants qui doivent demander pardon. Nous aussi, on fait des erreurs. Et ils ont un grand sentiment d'injustice, plutôt le sentiment de justice est très aiguisé chez eux. Et quand on a fait une erreur, peut-être le meilleur enseignement qu'un parent peut faire à son enfant, c'est de lui-même reconnaître ses erreurs et dire, bon, ok. Pardonne-moi, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Regardez ce qui est marqué là. vider les siphons bouchés. De quoi je parle là? De? J'ai pas entendu, madame. Les problèmes. Souvent, dans les familles, on se demande pardon, on règle les problèmes, et après on les fait ressortir. Quand il y a encore un conflit, on dit oui, mais l'autre... Ah, attends. Moi, j'avais un fils comme ça qui était spécialiste. Hein. Spécialiste. Et je lui dis, hop là, écoute, là, on a réglé le problème. Donc là, c'est fini. Donc, on doit absolument régler les conflits, régler les problèmes et s'assurer qu'on ne va pas, dans un conflit futur, on ne va pas ressortir tout ça, quoi. C'est comme si, boum, l'évier débordait de nouveau avec toutes les saletés qui... On a des spécialistes, des gens très compétents dans nos familles pour... n'est-ce pas? Ou bien je suis le seul? Non, mais c'est universel, ça. Et donc, bien faire attention et de dire, OK, on a réglé cette affaire, oui ou non? Est-ce qu'on a réglé cette affaire? Oui. Quand mes enfants sont partis de la maison, donc ils avaient 17, 18 ans, je les ai amenés les uns après les autres au restaurant. Et on a fait le point. On a pris le temps au restaurant. Et je me rappelle très bien, pour les uns et les autres, chacun, j'ai dit, est-ce qu'il y a une situation, tu vas partir de la maison maintenant, tu vas prendre ton envol, est-ce qu'il y a une situation que tu me reproches? Et ils m'ont parlé, quoi, les uns et les autres m'ont parlé de certaines situations, voilà. Donc on a pu régler ça. J'ai dit, est-ce que c'est réglé ou c'est encore dans le siphon? Est-ce qu'un jour, dans 5 ans, tu vas ressortir ça ou pas? Dit non, c'est réglé. Et c'est réglé. Vous comprenez ce que c'est important de parler de ça. Renforcer l'image de soi, de nos enfants. Alors, voilà, on va. C'était un peu long sur cette image de soi, mais c'est tellement. Ça fait tellement partie de nous-mêmes, ça, que c'était important de passer tout ce temps. Alors, je vais terminer par parler de l'éducation. En disant, voilà, il y a au moins 4 manières d'éduquer les enfants. Alors, voilà 4 manières. Le côté idéal, ou ce que nous rêvons de faire, il y a un côté autoritaire, le côté indifférent et le côté indulgent. Et vous allez voir la taille des murs. C'est justement, regardez, les styles d'éducation. Ici, c'est un style d'éducation autoritaire. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de lois dans cette maison. Les limites, elles sont là, les règles, elles sont là. Souvent sévères et parfois irréalistes. Est-ce que nous, on n'a pas tellement le temps de parler des limites, mais dans la famille, c'est important de mettre un cadre, n'est-ce pas? Un cadre des limites. Mais dans des familles autoritaires, on met des limites et on oublie que la famille est un système vivant qui évolue avec le temps et que les limites, elles doivent être remises à jour. Vous ne pouvez pas mettre des limites à des enfants de 6 ans, les mêmes à des enfants de 8 ans, les mêmes à des enfants de 12 ans. Et non, il faut les remettre à jour, constamment, constamment. Et là, dans le style autoritaire, c'est, voilà, c'est comme ça, et on ne bouge pas, et on ne discute rien. C'est le parent, le père, ou parfois, des fois, c'est la mère, qui met la barre très haute en mettant des règles, et on ne discute pas. Moi, j'ai déjà vu des enfants, deux filles, des jumelles, je crois, à l'âge le jour des 18 ans. Le jour des 18 ans. Ils ont pris les valises. Ciao les parents. Sans rien dire. Elles avaient tout préparé le jour des 18 ans. Pourquoi? Parce que les règles étaient trop. Alors, est-ce qu'il y a de l'amour? En tout cas, il n'est pas exprimé ou il n'est pas ressenti, perçu par l'enfant. Ce sont les règles qui priment sur l'amour. Et l'amour est conditionné ou conditionnel au respect des règles. Si tu m'obéis, je t'aime. Oui, c'est ça. Si tu m'obéis, je t'accepte. C'est conditionnel à l'obéissance. En fin de compte, les conséquences, ben oui, le mur est trop haut. Et quand le mur est trop haut, qu'est-ce qu'on veut faire? On se sent en prison. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'il n'est pas possible de le fracasser. Et on va se sentir, à un moment donné, on va se sentir tellement à l'étroit. Qu'est-ce qui pourra nous faire évader de cette prison familiale? La drogue est une possibilité. Eh oui, c'est trop contraignant. Ou bien le suicide en est une autre. Ou la fugue en est une autre. Le style indulgent. Alors là, qu'est-ce qui prime? Autant ici, l'amour était mis en veilleuse et le mur était très haut, autant ici, l'amour, c'est déborde, mais il n'y a pas de limite. Autant ici, avant, il y avait tellement des limites, ici, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc, ça, c'est bon pour la délinquance. Hein, mais l'autre aussi, un petit peu, quelque part. Hein, mais voilà. Ici, si vous voulez, l'amour est complaisant. On a envie, les parents ont envie, d'être considérés comme un ami des enfants. Chez nous, on les appelle la génération pétard. Pétard, c'est le joint. Et c'est les parents qui vont fumer le joint avec leurs adolescents pour être copain-copain. Chum. C'est comme ça que vous dites? Chum-chum? On dit comme ça? J'essaie de m'adapter, mais... mais copain-copain. Or, un cadre qui est donné aux enfants définit la relation parent-enfant. Et là, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre et on veut être accepté par les enfants à tout prix. Donc, on les aime et on ne met aucune limite, aucun cadre. Parce qu'on a peur de blesser, de punir, que l'enfant, il va être frustré parce qu'on lui a mis une limite et on lui a dit que à minuit quand même, quand tu as 12 ans, tu dois te coucher, quoi. Là, on dit rien parce que l'enfant va apprendre tout seul. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. On laisse, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et là, on pense qu'on est dans l'amour. Et c'est un peu difficile. La conséquence, c'est que les enfants risquent de ne pas apprendre à se fixer de propres limites. Et non, justement. Ils peuvent pas. C'est aux parents de mettre des limites. Les enfants ne peuvent pas. C'est impossible pour eux parce qu'ils ne sont pas encore adultes. Ils ne peuvent pas mettre de limites. C'est aux parents de mettre des limites. Mais les limites, elles doivent être mises à jour à fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc, ils sont pas protégés. Qu'est-ce que donne des limites? De la sécurité. Et là, comme il n'y a pas de limite, il n'y a pas de sécurité. Ils sont dans un système de naïveté. Ce sont des victimes très faciles pour les manipulateurs, pour les dealers et les sectes. Parce que ce sont des enfants qui vont rechercher un cadre. Ils n'en ont pas eu, ils n'ont pas de sécurité. Et dès qu'on va leur donner un cadre un petit peu clair, ils vont se précipiter là. Alors, le style indifférent. Là, vraiment, les parents... Est-ce que les parents n'aiment pas les enfants? Non, ce n'est pas ça. Il y avait une fois en thérapie, une maman qui vient, elle avait dans les 40 ans comme ça, mini-jupe, la jeune femme était, on dit en français, canon, hein, très belle, très sexy, très bien mise, très pain beige, comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et elle avait une fille de 14 ans, et elle était mal. Elle était en pleine adolescence, avec des boutons, elle était mal fagotée, elle était mal habillée, et elle était mal dans sa peau. Et la dame, elle était assise là, au bord de sa chaise, et sa fille était là, puis elle lui dit, « Oh, regarde-toi !» La question que je vous pose, est-ce que cette dame, est-ce qu'elle aimait son enfant? Bien sûr, une maman aime son enfant. Est-ce qu'elle acceptait son enfant? Non. C'est ça la différence. Et là, dans le style indifférent, c'est les parents sont centrés sur leurs propres besoins, sur leur propre bonheur, et ils ne vont même pas s'occuper de leurs enfants. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, ils s'en occupent pas. C'est vraiment un style indifférent. Peu d'amour, en tout cas ressenti par les enfants, pas de règles non plus, mais c'est un peu différent que le style précédent. Le style précédent, c'était quoi? Un style indulgent. Hein, là où il y a, oui, dans le style indulgent, il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a pas de limite. Ici, il y a peu d'amour et il n'y a pas de limite non plus, quoi. Ou de l'amour, il est là, bien sûr, mais il n'est pas manifesté. Et donc, les conséquences, eh bien, ça, là aussi, ce sont des enfants insécurisés, méfiants dans les relations avec autrui. Et ils peuvent adopter une conduite à risque, dont la consommation de la drogue. Pour eux, cette conduite à risque est une façon d'attirer sur eux une attention. Ce qu'eux, ils auraient voulu, si seulement les parents avaient pu les engueuler, quoi. Jamais ils se sont fait disputer, mais jamais ils se sont fait choyer. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne s'est pas occupé d'eux. Et là, ils disent, mais qui c'est qui? Il leur manque quelque chose. C'est une injustice. Dans notre jargon social, on appelle ça un abus. Parce qu'il aurait été juste et normal de s'occuper de ses enfants. Et tant que ces enfants n'auront pas été reconnus comme abusés, donc ce n'est pas un abus forcément sexuel, c'est un abus par le fait qu'ils n'ont pas eu ce dont ils auraient eu besoin d'avoir. Et tant qu'on n'a pas reconnu cela, ils auront du mal à guérir. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'attention qu'ils auraient dû recevoir. Alors le style idéal, c'est ce que nous pratiquons chez nous, n'est-ce pas? Hein, le style idéal, c'est justement de l'amour, mais aussi des règles. Les limites sont là, les règles sont là, le cadre est posé. Ce n'est pas le même cadre pour tous les enfants, ça dépend de leurs âges. Le cadre donne de la sécurité. Le cadre donne de la liberté, parce que dans le cadre, eh bien, on peut bouger. Et les parents savent qui ils sont et qu'ils sont légitimes pour mettre des limites. Alors, on aura toujours des enfants qui veulent dépasser ces limites et qui vont essayer de... justement dépasser ses limites. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours dire à vos enfants, non, je t'aime beaucoup, mais tu vas quand même faire ce que je te dis de faire. On a des enfants qui sont très compétents à nous culpabiliser. Ouais, tu mets des limites, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Et ça nous trouble, surtout chez les mamans, n'est-ce pas? Mais ils sont forts, hein. Et si vous savez qui vous êtes, et si vous savez quelle est votre responsabilité, vous pouvez dire, non, tu sais bien que je t'aime, et je t'aimerai toujours. Tu es mon petit garçon, tu es ma petite fille, et je t'aime. Mais tu vas quand même aller au lit à 8h30. Alors, moi j'appelle ça, dans mon jargon, être haut sur le cadre, c'est-à-dire, le cadre, il est défini, il est, voilà, ça c'est le cadre, à 8h30 tu vas au lit. Alors bien sûr, si c'est les vacances et qu'il y a les grands-parents qui viennent ou il y a un ami qui est venu, on va laisser 9h30. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais 8h30, c'est l'école, c'est 8h30. Demain matin, tu te lèves, etc. etc. Bon, voilà. On peut toujours faire des comment on appelle ça des compromis ou bien des... Hein, comment on dit? Ouais, on peut laisser passer quelque chose comme ça. On peut faire des entorses à nos limites. Mais voilà, normalement c'est comme ça. Et on pourra lui dire, tu sais, quand tu auras 10 ans, ça sera 9 heures. Enfin voilà, vous ferez vos règles vous-même. Mais on appelle ça être haut sur le cadre, c'est-à-dire on impose le cadre. Mais on a une position basse dans la relation, c'est-à-dire que de mettre des limites ne nous empêche pas d'être dans la relation d'amour et dans la relation profonde. Et est-ce que vous me suivez ça? Et souvent, les jeunes parents, ils confondent ça. Ils disent, si je mets des règles et que l'enfant me dit que je ne l'aime pas, ah, je ne peux pas supporter. Donc, bon, je laisse passer. Ou bien, il insiste tellement, il insiste. Vous savez, c'est comme là, ici, quoi. Hein? Et puis, à la fin de la journée, la maman, elle n'en peut plus, quoi. À un moment donné, c'est on savoir qui c'est qui commande. Les enfants, ils apprennent très vite à voir comment on sera fatigué. Mais si les choses sont claires et fermes, si la maman peut s'appuyer sur le père et le père peut s'appuyer sur la mère, ça c'est extraordinaire. Moi, quand je parle d'éducation des enfants, je dis la plus grande chose que nous pouvons faire pour aimer nos enfants, c'est de quoi faire ? C'est d'aimer notre conjoint. D'aimer notre conjoint. La population la plus importante dans la famille, c'est le couple. Ce n'est pas les enfants. Moi, j'allais dire, allez, je vais vous provoquer. Ne vous occupez pas des enfants. Occupez-vous de votre conjoint. Rendez votre conjoint heureux. Sortez avec votre conjoint. Passez du temps avec votre conjoint. Dans la complicité. Ne vous occupez pas des enfants. Et les enfants grandiront bien. Parce que quand vous allez vous occuper du conjoint, vous allez forcément vous occuper des enfants. Est-ce que vous me suivez ? Mais les enfants vont grandir tout seuls dans un climat de sécurité. Pourquoi ? Parce que le couple, il y a du lien dans le couple, il y a du lien. Ça vous parle, là, les jeunes filles, là ? Le lien qui est la pièce maîtresse de la relation. Et quand il y a du lien dans le couple, et quand on travaille à gérer nos différences dans le couple, les enfants voient tout. Et ils vont apprendre par mimétisme. Tout ce qu'ils vont vous voir, ils vont voir les hommes respecter la mère. Les hommes aimer leur mère. Et les mères respecter les maris. Ils vont voir ça. Et ils vont être éduqués par l'attitude. Est-ce que ça fait du sens ou pas ? Et vous allez voir, les enfants vont grandir, ils vont pouvoir être ce qu'ils sont à tous les âges. Et quand ils auront 16, 17, 18 ans, ils se pourront partir. Pourquoi ? Parce que les parents s'entendent, quoi. Et que les parents ont construit leur relation. Oui. Le style idéal, donc des limites et des règles, les règles sont réalistes. Elles sont appropriées à l'âge, donc elles changent ces règles. Elles sont appliquées avec amour, avec bon sens aussi, évidemment. Elles sont renégociées au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et l'amour, il est là. Il n'est pas conditionnel à si tu travailles bien à l'école ou si tu obéis à ce que je te dis, je t'aime. Non, l'amour est là. Dissocié du respect des règles, bah oui. Je t'aime, même quand tu désobéis, je t'aime. C'est pas bien ça. Ben oui, je vais t'aimer, même si tu fais une grosse bêtise. Et exprimer dans un langage que comprend l'enfant. En fin de compte, les règles sont appliquées de manière juste. Ces règles protègent les enfants, les poussent vers l'autonomie, et cela n'empêche pas les accidents, évidemment. C'est pas une garantie. Il peut toujours y avoir des accidents, mais les enfants auront plus de ressources pour rebondir en cas d'échec ou en cas d'accident. Est-ce que ça va jusque-là ? Ça va ? Eh bien, on a fini ce soir, la deuxième séance. Question ? Madame. Avec des. Vous avez. Oui. C'est, de toute façon, la famille est complexe. Très complexe. Donc, on ne peut pas dire c'est de la faute des parents, c'est de la faute de l'un ou c'est de la faute de l'autre. La famille, c'est une société, on va dire. C'est un système où les relations interpersonnelles, dans la famille, deviennent compliquées et on ne sait pas toujours comment faire. Personne ne sait comment faire. Sauf que quand les parents prennent leur place et définissent des règles et donnent un cadre dans la famille, ça va quand même donner de la sécurité à la famille, n'est-ce pas? Donc ça, c'est déjà important. Après, c'est vrai, après, chaque famille a son équilibre. L'équilibre familial chez moi n'est pas le même, il est unique à ma femme et à moi et à mes enfants, enfin, quand ils habitaient avec nous, maintenant ils sont grands. Mais on a retrouvé un autre équilibre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, chaque famille trouve son équilibre. Mais quand il y a un élément de la famille qui bouge, par un accident, par le chômage du père, ou bien par un enfant qui part pour étudier dans une autre ville, l'équilibre est rompu. Il faut maintenant que les éléments dans l'équilibre, les éléments dans la famille retrouvent un nouvel équilibre. Comprenez qu'une famille, c'est une famille vivante, c'est un système vivant et on doit toujours s'adapter à tous les changements. Sauf que on n'aime pas les changements. On voudrait, ça fatigue les changements. Un système n'aime pas les changements. Une famille, on voudrait rester comme on est bien aujourd'hui, on voudrait rester. Eh bien non, c'est pas possible. Un système change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas si ça vous aide beaucoup à dire ça, mais je ne peux pas, moi, résoudre votre problème en 2 minutes, n'est-ce pas? Ça serait vraiment une utopie, ça. Mais il y a un jeu. En général, les membres d'une famille dansent une danse. Ils font une danse. Et c'est ça qu'il faut connaître. Quelle danse ils sont en train de faire, qui ne nous convient pas à tous pour changer ça. Quel est le jeu qu'ils sont en train de jouer? On a tous nos petits jeux. Hein. il y avait une jeune fille. Alors? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que une éducation, elle doit commencer de bonne heure, elle doit commencer tout petit, et moi j'allais dire être assez strict quand ils sont tout petits. Et là, on peut faire face à beaucoup de problèmes. Après, enfin, moi je vais dire ceci, un enfant de 2 ans, je ne fais aucunement confiance. On est d'accord? Aucunement confiance à un enfant de 2 ans. Je veux toujours savoir ce qu'il fait, où il est, dans ce sens-là, n'est-ce pas? Je ne fais pas confiance. Et progressivement, il va y avoir de la confiance qui va s'établir parce qu'on l'accompagne, l'enfant, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Et donc, on va placer un cadre. Alors, je vais placer un cadre. Je vais prendre ça. On va mettre un cadre. Je prends ce cadre, et ça, ce sont les limites que je fixe à l'enfant. N'est-ce pas? Moi, je vais mettre mes enfants ici, dans le cadre. Alors, ça peut être un cadre différent, ça dépend les âges, n'est-ce pas? l'enfant de 2 ans, je vais lui poser un cadre très serré. Un enfant de 6 ans, il sera moins serré, différent. Et moi, je veux me mettre où, moi? Si j'ai placé ce cadre-là, je me mets où, moi? Dans le cadre? Au-dessus? Ici? N'importe où? Mais à l'extérieur du cadre. N'est-ce pas? C'est moi qui fixe un cadre à l'enfant. Et c'est moi. Et donc, ça va. Le cadre, on dit ceci, que le cadre définit les relations. Donc, à un moment donné, l'enfant, il voudra sortir du cadre. Donc, c'est là où il va lutter pour le pouvoir. Quelqu'un qui veut sortir du cadre, c'est qu'il cherche le pouvoir. Et il cherche à vous amener dans le cadre. Et souvent, il fait copain-copain. Il dit, non. Tu es mon fils et moi, je suis ton père. Tu ne peux pas me parler comme ça. Et donc là, on ramène le cadre. Il veut sortir du cadre et il veut nous ramener dans le cadre. Et nous, on dit non. Et on rétablit le cadre. Maintenant, par rapport au cadre, le cadre, ça donne de la sécurité parce qu'il sait les limites. Mais ça donne de la liberté dans le cadre. Il peut bouger comme il veut dans le cadre, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que l'enfant grandit, la famille évolue. Et le cadre doit changer. Et donc, on peut imaginer, écoute, quand tu as 6 ans, tu reçois $1 par, je ne sais pas vos habitudes, hein, mais vous parlez d'argent de poche, d'enseigner les enfants à garder de l'argent pour un petit travail, je ne sais pas comment vous faites, hein, mais on peut dire $1 par semaine quand tu as 8 ans ou quand tu as 10 ans, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, hein, je ne sais pas. Hein, mais quand tu auras 12 ans, tu pourras faire ce travail et tu auras $2, n'est-ce pas? Donc le cadre change. Quand tu as 10 ans, tu te couches à 8h30 ou à 9h, mais ne t'en fais pas quand tu auras 12 ans. Donc on peut anticiper le changement du cadre. Ce qui est très important, c'est de changer le cadre. Et moi, j'allais dire, changer le cadre en accord avec votre conjoint. C'est ça qui est très important. Alors maintenant, pour continuer, ne vous inquiétez pas. Les adolescents, les enfants vont toujours vouloir sortir du cadre. Ça fait partie du jeu. Et il ne faut pas vous laisser démonter par ça. Il ne faut pas vous laisser inquiéter par ça. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, c'est plus facile d'être strict sur le cadre quand les enfants sont petits. Maintenant, quand les enfants sont grands et les adolescents, il faudra maintenant choisir vos combats. Choisir sur quoi vous voulez être strict, mais il y a d'autres choses. Soit il a déjà appris, soit il n'apprendra plus avec vous. Mais il y a certaines choses que dans notre maison, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Sinon, vous allez avoir la guerre toute la journée, quoi. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez quand même une bonne ambiance. Donc choisissez des choses qui sont importantes, peu nombreuses, mais importantes. Ça se passe comme ça. Est-ce que c'est clair, hein? Frère, on s'arrête après vous, hein. Pardon? L'enfant roi. Mais ne mettez pas de cadre. C'est l'enfant roi. Et il ne sera même pas roi, il sera empereur. Et il va vous marcher sur la tête. C'est l'enfant de 2 ans qui commence à taper ses enfants, à ses parents, quoi. Et les parents disent, oh, le pauvre chéri, il ne faut pas le toucher parce que sinon il va être frustré toute sa vie, quoi. Mais en attendant, ce qu'il fait à 2 ans, il va multiplier par 1000 à 15 ans. L'enfant roi, c'est souvent ça. Parce qu'on a peur de poser un cadre. On confond le cadre et l'amour. Et beaucoup de jeunes parents pensent que s'ils posent un cadre, ils n'aiment pas leurs enfants. C'est le contraire. On aime les enfants, donc on pose un cadre. C'est ça? On s'arrête? Parce que c'est tard, 9h. De quoi? Alors, je répète le devoir. Je peux en avoir un, s'il te plaît? C'est recto verso. C'est mieux connaître son enfant. Et je ne sais même pas où j'ai mis mes lunettes, moi. Je n'avais pas des lunettes, moi? Non. Mais je les avais, non? Ça, c'est trop fort, ça. Ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alors, donc, c'est le travail que je vous avais demandé, dont je vous ai parlé hier, mieux connaître votre enfant. Ça, c'est votre devoir. Et vous mettez le prénom de l'enfant, d'un de vos enfants, entre 7 ans et 16 ans, et puis vous répondez à ces questions. Questions très faciles, apparemment très faciles. Après, vous demandez à vos enfants de venir, dire « Oh, on m'a donné un devoir. Voilà un stylo rouge. Est-ce que tu peux me corriger ?» Et quand vous allez lui dire « Quel est le héros de votre enfant ?» Et vous, vous allez marquer « Robin des Bois ». Je dis « Mais papa, non, mais ça va pas, non. » Et là, vous allez remarquer que votre enfant, on le connaît pas très bien, quoi. Mais au-delà des réponses, vous allez voir le contact que vous allez voir avec votre enfant, c'est extraordinaire. Donc, si vous n'en avez pas assez, parce que vous avez 3-4 enfants, eh bien, faites des photocopies, parce que les autres enfants, si vous le faites avec un, les autres, ils vont vouloir aussi leur part. Je sais, ça fait un peu de travail, mais ça vaut la peine. C'est un travail systémique. Voilà. Écoutez, merci pour votre présence, votre attention. Et puis, on se retrouve demain. Demain, ça va être... Je vais changer un peu les choses parce que ça va être... je vais faire 2 séances en une. Hein. Voilà. À demain. Bonne soirée. Et merci beaucoup.
Non, merci. Moi, je suis trop vieux. Je veux vous dire merci.
J'en prie.
Moi, j'ai adoré ça.
Ah bon.
Sauf que demain, je ne peux pas venir.
Pas de soucis.
Ça me touche. J'aurais aimé ça venir, mais j'ai un notaire qui comprend rien.
Ah oui, d'accord.